Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute en direct consacré ce soir au blocus pro-Gaza à Sciences Po Paris avec Éric Revel. Bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Ravi de vous accueillir bonsoir, sur le Philippe. Plateau et en face de vous Philippe Guibert. Bonsoir cher Philippe.
Bonsoir Lionel, bonsoir Éric.
Très heureux
Éric
de vous retrouver.
Se mesurer comme ça le soir,
oui,
vendredi.
C'est un peu risqué, mais je pense qu'il a le talent
c'est
et le niveau pour
l'équipe.
Voilà, exactement. Oui. C'est exactement ce que je voulais dire. On va le voir dans quelques instants. En tout cas, nous allons rester sur ce sujet unique, sur cette thématique pendant notre heure de cette dispute, cette guerre à Gaza qui enflamme désormais le campus de Sciences Po à Paris et dans d'autres villes également. Des dizaines d'étudiants qui bloquent l'accès au site, qui ont accroché des drapeaux palestiniens sous les fenêtres, sous tension, avec des forces de l'ordre qui ont dû intervenir. On va retrouver en direct à Paris, dans le 7e arrondissement, notre journaliste CNews pour nous dire où en sont les évacuations et nous raconter le film de cette journée plutôt dense.
Écoutez, les premières évacuations ont lieu aux alentours de 18h avec les soutiens d'Israël et les militants se tenant à l'entrée de la rue Saint-Guillaume. Les CRS ont ensuite lancé plusieurs sommations pour déloger les militants palestiniens pro-palestiniens, excusez-moi, qui se situent juste en face de Sciences Po, des sommations et que les manifestants installés par terre ont refusé. Ils ont refusé de se lever. Leur seule réponse a été « on ne bougera pas, on reste ici ». Ici. Tous sont actuellement assis par terre, liés les uns aux autres par les bras. Ils s'encouragent mutuellement à tenir face et à faire face, excusez-moi, aux forces de l'ordre. Malgré tout, quelques-uns d'entre eux ont d'ores et déjà été évacués par l'arrière il y a plus d'une heure maintenant vers la rue de Grenelle. Et par petits groupes, pour éviter tout débordement, on a également pu voir des élus et les filles, dont Thomas Porte, excusez-moi, et Éric Coquerel, dressés entre les CRS et les militants pour faire barrage entre les CRS et ces pro-palestiniens. Actuellement, les militants pro-palestiniens, comme vous pouvez l'entendre, ils scandent les mêmes slogans depuis maintenant plusieurs heures. Il y a même des chants qui ont résonné dans cette rue Saint-Guillaume. On assiste clairement, si vous voulez, à un face-à-face entre les manifestants et les CRS qui ont par ailleurs retiré leur casque. L'évacuation, pour le moment, ne semble pas prendre pour ceux qui se situent juste en face. Alors, ils viennent de remettre leur casque, excusez-moi. L'évacuation va certainement pas... Va certainement avoir lieu dans quelques instants. Il faut le souligner, jusqu'ici, la situation était plutôt calme et sous contrôle.
Nous allons suivre cela en direct, évidemment, avec les images des équipes de CNews qui sont sur place. Merci pour toutes ces précisions et on reste connectés s'il se déroule quelque chose avec, effectivement, les forces de l'ordre actuellement qui viennent de chausser leurs casques désormais et qui vont peut-être intervenir pour une nouvelle salve d'évacuation avec, vous l'avez entendu, des députés LFI qui se sont mêlés aux jeunes étudiants pour empêcher les forces de l'ordre d'agir. Avant de parler de l'aspect politique d'ailleurs de cette situation, Éric Revel, est-ce que c'est un événement important qui est en train de se dérouler sous nos yeux ou est-ce que c'est un non-événement parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations d'étudiants dans une enceinte ou en dehors d'une université ?
Oui, c'est pas la première fois qu'il y a des manifestations. Les universités françaises sont souvent le cénacle de révoltes, de mouvements, de prises de position, de débats. Mais là, je pense que c'est assez grave. Je veux dire pourquoi. Parce que il y a d'abord le contexte international. On est évidemment horrifié par ce que subit le peuple de Gazaoui aujourd'hui. Mais évidemment, en face, il faut, si on est horrifié pour le peuple Gazaoui, il faut... aussi dire qu'on a été tétanisé, horrifié comme jamais avec l'attaque du 7 octobre en Israël et que Israël est un État qui existe et qui continuera à exister. Pourquoi je dis que c'est grave ? Parce que vous avez précisément la France insoumise qui est là, qui est en embuscade électorale qui met de l'huile sur le feu avec des déclarations absolument irresponsables. Je pense au tweet de Rima Hassan.
On peut le voir d'ailleurs.
Voilà, Rima Hassan.
Qui est sur la liste des Européens de LFI.
Voilà,
qui parle de soulèvement.
Qui demande aux étudiants de Sciences Po, c'est l'heure du soulèvement. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'au moins, très clairement, on sait que maintenant, LFI, en tout cas cette déclaration, ce tweet, le soulèvement, c'est donc que LFI cherche le chaos, c'est donc que LFI cherche la confrontation, c'est que LFI cherche quoi ? Cherche à ce qu'il y ait des martyrs dans la rue ? Le soulèvement, c'est pas un terme banal. Donc moi je pense que c'est extrêmement grave, parce que vous avez des jeunes, une poignée, c'est pas... Ils empêchent les étudiants de Sciences Po de rentrer, de suivre des cours alors que les examens approchent. Mais c'est toujours comme d'habitude, une poignée d'exaltés qui veut faire rendre gorge à l'ensemble des étudiants. Donc c'est grave d'un point de vue du respect de la loi et de l'ordre public, c'est grave d'un point de vue politique, et c'est grave parce que précisément ce qui se passe en ce moment à Gaza mériterait à mon sens un autre traitement. Puis j'ajoute...
Non.
Parce que, attendez, j'ajoute, mon cher Philippe, que en ce moment, il y a un énorme conflit qui fait des centaines de milliers de morts, qui est le conflit en Ukraine. Les Russes ont envahi l'Ukraine. Est-ce que ces jeunes se sont mobilisés pour le sort ? Pourquoi ? Parce que ce sont des peuples occidentaux, chrétiens, blancs. Donc, si vous voulez, je suis assez énervé ce soir et je vais essayer d'être calme avec Philippe, mais je suis assez énervé par le spectacle pitoyable que donne l'extrême gauche devant Sciences Po.
Un engagement donc à géométrie variable, selon Éric Revel, par rapport à ce que l'on voit sur ces images, Philippe Guibert.
Oui, mais il y a trois originalités, parce que c'est vrai, vous aviez raison de le souligner, que ce n'est pas exactement la première fois qu'un lieu d'enseignement supérieur est occupé avec des débordements, etc. Mais il y a trois originalités. D'abord, c'est que l'extrême gauche, dont tu parlais, Eric, a maintenant des députés, et que donc on a des députés et les filles qui jugent utile de se mettre devant les CRS dans une manif illégale. Ça, c'est assez original. Deuxième originalité, c'est que c'est à Sciences Po. Ce genre d'agitation, si on vous reprend des clichés des années 70-80, ça se passait à la Sorbonne, ça se passait à Nanterre. Ce qui est extrêmement révélateur. Dans ce à quoi nous assistons, c'est que c'est Sciences Po qui est devenu un peu le cœur de l'avant-garde de l'extrême gauche contestataire. Puis la troisième originalité, Eric en a parlé, et on va pas être beaucoup en désaccord, c'est que ça se focalise sur la cause palestinienne, qui mérite en soi, parce que la cause palestinienne peut être soutenue en soi, mais qui est traitée effectivement d'une façon très idéologique, et qui est traitée, comme tu commençais à le suggérer, je vais le développer un tout petit peu, parce qu'il s'inscrit dans une sorte d'idéologie décoloniale, où l'Occident est toujours le méchant, et Israël est le représentant de l'Occident. Et donc, le militantisme de ces jeunes étudiants, il n'y a peut-être pas que des étudiants d'ailleurs, s'oriente beaucoup sur ce sujet, parce que ça fait écho à la mise en cause globale de l'Occident, dans lequel il baigne idéologiquement. Et donc la cause palestinienne, c'est pas pour avoir un deuxième État, c'est avec des slogans où Israël aurait commis un génocide. Israël a peut-être commis des crimes de guerre, mais elle n'a pas commis un génocide à Gaza. Où on entend des slogans qui sont du fleuve à la mer, du Jourdain à la Méditerranée, qui consistent à nier la possibilité même d'un État d'Israël. Et donc... voilà, ce sont les trois originalités qu'à la fois l'extrême gauche, que LFI assume complètement ce rôle d'extrême gauche, avec en effet la figure de Rima Hassan qui est septième sur la position de LFI, et des députés de la nation qui viennent dans une manif illégale au moment de l'évacuation, ça c'est original. Et puis Sciences Po, la transformation, la mutation de Sciences Po, sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, parce que c'est quand même un point tout à fait essentiel.
Attendez, il faut juste... Je vous cède la parole.
Oui, parce qu'il faut quand même...
Bon, je voudrais juste qu'on commente quelques instants pour nos téléspectateurs aussi les images qui sont en direct, qui sont des images assez fascinantes et assez surréalistes tout de même, parce que les personnes que l'on voit bah, pardonnez-moi, les personnes que l'on voit là dans les étages du bâtiment de Sciences Po sont là depuis la veille. C'est-à-dire qu'ils ont dormi, ils sont alimentés par des paniers, on leur apporte par des systèmes de poulies et
c'est
de cordes.
C'est le principe d'une occupation.
C'est le principe d'une occupation. Mais nous la vivons en direct dans la rue, dans le 7e arrondissement, avec une situation somme toute assez rare dans notre société d'aujourd'hui, contemporaine, avec là des policiers qui n'interviennent pas, des députés de la France insoumise qui sont là aussi pour faire barrage, et les leaders de ce mouvement étudiant donc pro-Gaza qui prend la parole avec cette gigaphone en anglais. Qui plus est, pour expliquer tout cela, avec cette foule donc qui est massée, comme s'il y avait un concert qui allait être donné dans quelques instants.
Vous savez que la moitié des cours à Sciences Po sont en anglais à peu près aujourd'hui.
Oui, d'accord, mais enfin nous sommes en France, on est à Paris.
Beaucoup et d'étudiants étrangers. Hein,
mais d'accord, attendez, d'accord.
Pour ajouter à la gravité de ce qu'on vit en ce moment à Sciences Po, quand Philippe Guibert dit, à juste titre, qu'on a entendu des slogans où il est très clairement dit qu'il faut rayer Israël de la carte, hein, puisque la Free Palestine du fleuve à la mer, ça veut dire qu'en fait, il nie l'existence d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, qu'on écoute là, ils reprennent l'idéologie du Hamas. Le Hamas, je rappelle, ce groupe terroriste, veut la disparition d'Israël. Eh bien, ces gens reprennent l'idéologie du Hamas. Et j'ajoute.
En tout cas, ils ne condamnent pas ces actions.
Vous voyez, ce qui est encore plus grave pour l'avenir de notre pays, c'est que ces gens de Sciences Po qu'on désigne comme étant l'élite, la future élite, un certain nombre d'entre eux vont faire l'ENA, ce seront des hauts fonctionnaires. Mais est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de créer? C'est-à-dire qu'on a des étudiants de Sciences Po qui ont un biais idéologique tellement puissant que lorsqu'ils exerceront dans des ministères ou ailleurs des fonctions de responsabilité, ils ne feront que retransmettre la même.
Mais ouais, est-ce que vous rendez
Eric. Mais on le voit aujourd'hui à la Cour des comptes, par exemple.
Est-ce que cela veut
au
dire
au Conseil d'État, pardon.
À la
Conseil
lumière d'État. De ce que vient de dire si. Eric Revel, Philippe Guibert, est-ce que cela veut dire que cette manifestation est sans doute pro-Gaza et elle peut se justifier à l'aune de ce que certains estiment, mais est-ce que c'est aussi une manifestation que l'on peut considérer comme anti-israélienne?
Ben, c'est la mutation justement du militantisme pro-palestinien qui est en cause derrière ça. Parce que derrière ce qui se joue là, c'est en fait, ils font une réplique. Derrière, c'est une grossière opération de LFI, hein, soyons quand même pas dupes. Hein, LFI, CGT, mais il y a un terreau favorable à Sciences Po, et c'est pour ça qu'ils vont à Sciences Po, et qu'ils ne vont plus à la Sorbonne ou à Nanterre, comme il y a quelques années. Mais il y a une mutation de l'idéologie qui était derrière le mouvement pro-palestinien. C'est-à-dire qu'il considère, et d'ailleurs Rima Hassan le dit très clairement, hein, quand vous l'écoutez un petit peu, dit très clairement, voilà, Israël est un projet colonisateur et colonialiste.
Entendu par la police pour apologie du terrorisme, hein, Rima Hassan, je le rappelle.
Oui, ça on peut discuter. Mais il considère qu'Israël est depuis le départ, depuis le début, un projet colonialiste qui est donc illégitime. Voilà, c'est ça le fond de l'idéologie. Et que comme l'Occident est colonialiste par nature, Israël est un représentant de cet Occident. Donc c'est ça qui se joue idéologiquement derrière LFI et derrière ces jeunes qui sont réunis. C'est une mutation idéologique qui est complètement répliquée des campus américains. Alors, fort heureusement, d'après ce que je comprends, mais je reste prudent parce qu'il faudra avoir des témoignages plus précis, il n'y a pas eu de slogan ou de comportement antisémites ou anti-juifs aujourd'hui, mais je mets du conditionnel, mais on n'en a pas écho à ce stade. Mais aux États-Unis, dans certaines universités, il y a des profs et des étudiants juifs qui ne peuvent plus se rendre, oui, qui pour donner son cours, qui pour le recevoir. Donc, on est dans ce mouvement. En fait, c'est la mutation de Sciences Po qui est derrière. C'est que Sciences Po a voulu être la grande école américaine ou anglo-saxonne. De Paris a voulu complètement se transformer.
Oui. Il y a une forme de mimétisme aussi avec l'importation de ce qui se passe aux États-Unis.
Voilà, c'est ce que je.
Les Américains vivent exactement la même
chose. Mais à vouloir devenir une université américaine classée parmi les meilleures universités mondiales, eh bien finalement, on a aussi importé des comportements et des idéologies.
Alors on voit Éric Coquerel, député de la France Insoumise, il n'est pas le seul, ils sont très nombreux d'ailleurs, avec leurs écharpes, ils sont venus dans cette manifestation, comme ils participent d'ailleurs à des manifestations manifestations pro-Gaza depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois maintenant. Dans ces manifestations, parfois, ce n'a peut-être pas été le cas aujourd'hui, vous avez raison Philippe Guibert, mais des slogans anti-Israël, on en a entendu
oui,
dans ce genre de manifestation.
Oui.
Voilà, il y a peut-être un lien aussi qui peut être établi par rapport à la vocation de cette manifestation. J'aimerais aussi que l'on voit le message sur X de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise toujours, qui... prévient ceux qui le suivent en tout cas qu'il faut protéger la jeunesse de Sciences Po des violences dont elle est menacée. Les violences s'entend les violences de la police peut-être puisque ce sont les policiers qui veulent évacuer le bâtiment de Sciences Po. Avec Thomas Porte notamment et Jérôme Le Gavre, député insoumis, vous devez vous interposer si vous voulez agir contre le génocide à Gaza. Ceux qui résistent sont l'honneur de la France sous les yeux du monde. En fait, c'est la même résonance, Éric Revel, que le message de Rima Hassan. On appelle au soulèvement, on appelle à la révolution.
Bah oui.
Foutre le bordel.
Enfin, oui, bah le chaos. Bah, écoutez, moi je me demande de plus en plus si c'est pas ce que cherche la France insoumise. Vous voyez, on montre du doigt des partis politiques en les taxant d'extrême droite, en disant ces gens, l'extrême droite sont, souvenez-vous, hein, historiquement, sont des gens qui prennent l'Assemblée nationale d'assaut, sont les croix de feu, c'est ça l'extrême droite. Hein. Mais aujourd'hui, quand vous entendez le leader de la France insoumise en appeler au chaos, mais en fait vous vous demandez. Si aujourd'hui, pour lui, le bulletin de vote reste l'arme essentielle de l'arrivée au pouvoir, ou s'il cherche autre chose. Parce que quand vous parlez de soulèvement, quand vous demandez aux gens de s'interposer, quand vous remettez sans arrêt de l'huile sur le feu, sur un sujet aussi grave, ouais, aussi
ça,
historique,
ça,
mais en réalité, que cherche Jean-Luc Mélenchon? Moi, je me pose la question, je vous le dis franchement, et tranquillement. Et puis, vous parliez des universités américaines tout à l'heure, mais il faut voir ce qui s'est passé.
Ouais.
Vous vous souvenez que les deux présidentes de deux très grandes universités américaines, le MIT et Harvard, ont été auditionnés par le Congrès aux États-Unis et que sur la question du génocide juif, je crois que c'est la présidente démissionnée de Harvard, Mme Gay, qui a répondu « ça dépend du contexte ». Ça dépend du contexte. Donc vous voyez bien qu'en réalité...
Un appel à la violence contre des juifs, ça dépendait du contexte.
Ça dépendait du contexte. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ces gens-là qui sont dans la rue, soutenus par une formation politique... avec des antécédents aux États-Unis, mais en fait vous voyez bien que le feu peut s'allumer. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention parce que si dans ce genre de réunion illégale vous avez le moindre incident, la moindre violence que je ne souhaite pas, le moindre blessé que je ne souhaite pas, voire pire, eh bien on se demande si la France insoumise ne cherche pas une forme de martyr dans tout ça.
D'autant qu'il y a eu quelques échauffourées cet après-midi, quelques mouvements de foule et notamment une séquence que j'aimerais vous montrer et que vous allez pouvoir commenter. C'était en milieu d'après-midi avec l'une de nos équipes qui était sur place et qui était en train, vous allez le voir, d'interviewer un député LFI et qui a été interrompu par des manifestants qui a plutôt bousculé, c'est le moins que l'on puisse dire, notre équipe. Je vous propose, on va garder l'image en direct évidemment dans la double fenêtre s'il vous plaît, mais on va écouter également, si c'est possible, et on va écouter évidemment cette séquence et regarder cette séquence de cet après-midi.
Actuellement, laissez-vous dégager, genre vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez, BFM pareil, mais partez, partez en fait, je ne sais pas pourquoi vous acceptez ces lignes, sérieusement, mais partez, vous avez pas de
monsieur, pas de violence, d'accord, pas de violence.
Eh, c'est nous qui sommes ici, on les dégage, ils ne sont pas les bienvenus, et la cour de la mer, c'est en nous, ils nous traînent de terroristes. Cassez-nous, c'est nous là, vous n'êtes pas les bienvenus ici, allez-vous.
Voilà, et ce qui a été dit Philippe Guibert aussi, notamment de la partie notamment des étudiants juifs de France, Samuel Le Joyeux, c'est qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas parlementer avec ces gens-là. C'est très difficile de pouvoir s'entendre, discuter plutôt que de passer à l'acte à chaque fois.
Non, non, ça c'est clair que c'est pas un lieu de débat. Là. La rue Saint-Guillaume, telle qu'elle on la voit, n'est pas un lieu de débat. C'est pas le débat qui est recherché. D'abord, solidarité avec l'équipe de journalistes et de caméramans de Sciences News, de Sciences Po, de CNews, ouais. qui s'est fait insulter et qui s'est fait dégager de façon absolument lamentable.
Bah, comme si CNews avait une cible dans ce genre de manifestation, c'est comme si nos équipes avaient une cible sur la poitrine.
Donc d'abord, bravo à eux d'y être allés quand même, parce que voilà,
on a encore des équipes sur place, hein, pour l'instant, les images, avec les images en direct.
Ben, félicitations et solidarité avec eux, parce que j'imagine que tout à l'heure, ils ne devaient pas être complètement rassurés quand ils ont été pris à partie. Et puis, d'autre part, j'avais un point d'accord et un désaccord avec toi, enfin, une nuance en tout cas. Le point d'accord, c'est que oui, tu as tout à fait raison, Eric, et les filles jouent sciemment sur les tensions identitaires dans notre société, et c'est honteux, lamentable, grave, dangereux. On est tous d'accord là-dessus. Après, est-ce qu'ils recherchent le chaos? Est-ce qu'ils recherchent, finalement, comme tu le suggérais, une situation révolutionnaire? Je pense d'ailleurs, petite parenthèse, que c'est pour éviter tout accident et tout martyr que la police prend largement son temps pour dégager des gens qui ne sont quand même pas des milliers dans la rue Saint-Guillaume. Hein. Je veux dire, si les CRS avaient déjà voulu évacuer un peu manu militari cette rue, ça serait déjà fait. Mais je pense qu'ils ne veulent pas prendre le moindre risque d'avoir un accident, d'avoir un étudiant blessé, etc., etc. Est-ce que LFI veut créer une situation révolutionnaire? Moi, je crois que LFI est à la rue, que électoralement...
Ah oui, ils sont dans la rue.
Non, ils sont aussi à la rue. Je pense qu'électoralement, ils sont en grande difficulté et qu'ils n'arrivent pas à imposer un autre thème de campagne que celui de l'importation du conflit israélo-palestinien dans notre pays. Je pense que c'est un aveu de faiblesse. Moi, j'ai été très frappé d'une chose quand même, juste pour terminer. Au moment où des candidats ou élus LFI ont vu leur réunion interdite, et puis ont vu des convocations au commissariat de police leur arriver, je me suis dit, oh là là, ça va leur profiter. En se victimisant, ça va leur profiter. Je constate que depuis une semaine, puisque ça fait environ une semaine, et qu'il y a des sondages tous les jours sur les européennes, ils n'ont pas bougé d'un demi-point. Donc je pense qu'ils sont en grande difficulté, et que même cette situation qui aurait pu leur profiter ne leur a pas profité. Je pense qu'ils n'ont que ça sous la dent. Je pense que Rima Hassan est devenue de facto la tête de liste ou la tête d'affiche de la liste européenne. Vous avez remarqué qu'on ne voit plus Manon Aubry, mais je pense que ce jeu-là, qui est d'une part dangereux, ne leur profitera pas.
Est-ce que ça va leur servir justement d'être présent devant Sciences Po aujourd'hui? Vous allez pouvoir réagir, Éric Revel, à la fois sur la séquence CNews. Si vous
parce que j'ai des trucs à dire sur Émeric Caron
bien
quand
sûr.
Même. Hein.
Et attendez. Après, je vous demanderai si vous n'avez pas le sentiment que ce qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est ce qui se passe souvent dans les agissements des zadistes, des ZAD, vous voyez, qui occupent le terrain.
Oui, mais c'est la même, ce sont les mêmes, bien sûr. C'est la même idéologie en tout cas. Mais oui, mais c'est la même idéologie, exactement. C'est exactement la même idéologie. Mais pardon, Philippe Guibert, pardon, mon cher Philippe. Mais
oui,
le LFI ne cherche pas le chaos. Mais pardonnez-moi, quand vous avez sans doute peut-être future députée européenne, Madame Rima Hassan, qui dans un tweet en appelle au soulèvement. Ouais. Eh bien, le soulèvement, c'est un synonyme de chaos. Quand vous appelez les étudiants Sciences Po au soulèvement, vous les appelez à quoi? À passer à l'action. Ils sont dans la rue. C'est quoi l'action dans la rue?
Alors, d'accord, Éric, je suis entièrement d'accord. Hein.
Donc, en fait,
le tweet de Rima Hassan est tout à fait.
Et puis, attendez, j'aimerais dire autre chose.
Oui, on tend l'oreille, je vous cède la parole, juste on tend l'oreille pour savoir ce qu'est en train de dire cette manifestante, pour savoir s'il va y avoir une évacuation ou pas.
Faisons-les entendre. Si vous êtes partant pour signer, faisons un communiqué collectif et le plus large possible pour continuer le rassemblement et continuer d'élargir. Merci à tous.
Bravo.
Voilà, peut-être apparemment, si j'ai bien compris, un consensus. S'il y a une évacuation dans le calme, il se pourrait qu'il y ait des discussions.
On va essayer d'en avoir des négociations pour avoir une évacuation.
On va demander d'ailleurs à notre journaliste et à nos envoyés spéciaux, juste après la pause, de revenir pour nous expliquer ce qui a été dit pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Juste avant la pause de publicité.
Oui, et tant mieux qu'on évite évidemment toute violence ce soir rue Saint-Guillaume. Mais juste là, sur la séquence qu'on a vue, évidemment, je tire mon chapeau aux journalistes de CNews qui sont sur le terrain. Mais Émeric Caron, vous avez vu cette passivité? Il aurait pu. Il est interviewé par les journalistes de CNews. Il aurait pu dire quelque chose, lui, le grand défenseur. Alors, il a dit pas de violence.
Oui, mais Éric Revel, je suis même surpris qu'il ait répondu.
Mais attends, mais d'accord. Mais là, quand il voit des journalistes agressés, lui, le grand défenseur de la liberté d'expression, de la veuve et de l'orphelin. Non, qui a été journaliste. Non, il pense juste à gérer son petit bulletin électoral. Il a peur, je pense, en intervenant.
Pas compter que... sur lui pour défendre.
Mais vous rendez compte ce qui se passe là ? Vous avez des journalistes agressés, vous avez le grand défenseur de gauche de la liberté d'expression et il bouge pas une oreille ? Mais c'est scandaleux.
On marque une pause, on se retrouve dans Ça se dispute avec Éric Revel et Philippe Guibert et nos images en direct, bien sûr, puisque pour l'instant, il y a toujours des manifestants et toujours un blocus devant le bâtiment de Sciences Po dans le 7e arrondissement de Paris avec les forces de l'ordre présentes sur place. À tout de suite. Toujours en direct sur CNews, dans Ça se dispute, la deuxième partie en compagnie de Philippe Guibert et d'Éric Revel. Et notre spécial, en fait, une seule thématique en tout cas ce soir, avec ce qui se déroule à Sciences Po, devant le bâtiment de Sciences Po, avec manifestement le blocus qui va peut-être cesser puisque des manifestants sont en train de sortir du bâtiment, ceux qui étaient là depuis presque un peu plus de 24 heures même. On va faire le point avec nos journalistes sur place et notamment notre envoyé spécial pour faire le point et savoir ce qu'il va se produire dans les prochaines minutes et peut-être les prochaines heures.
Eh bien, écoutez, les militants pro-palestiniens ont décidé de quitter les lieux par eux-mêmes. Ils ont quitté, du coup, cette rue. Ils vont quitter cette rue, accompagnés des militants qui étaient installés depuis maintenant 24 heures à l'intérieur de l'établissement. Leur sortie va se dérouler par groupe de 30 pour une question de sécurité. Et ce sont les instructions données par les CRS. Et normalement, tout devrait se dérouler comme prévu.
Des précisions, on reste connecté évidemment et on continue à suivre les images en direct de CNews pour savoir et surtout vérifier que tout se passe bien car je le rappelle, il y a la présence des forces de l'ordre, il y a la présence des militants dans la rue et dans le bâtiment, mais il y a aussi certains députés de la France insoumise qui sont présents et qui se sont opposés tout à l'heure à l'intervention de la police pour protéger avec leur écharpe notamment les étudiants dans le cadre de cette manifestation et de ce blocus. Heureusement, Philippe Guibert, que ça se déroule de cette manière-là, qu'il n'y ait pas d'affrontement, en tout cas, comme on aurait pu le présager.
Oui, oui, mais je pense que la police et le préfet ont tout intérêt à ne pas offrir à LFI le cadeau d'avoir un début de commencement de violence de la part des policiers. Donc tout ça est très bien. C'est pas tout Sciences Po hein, qui est là. Moi, je voudrais revenir sur Sciences Po. Il y a un terreau favorable à Sciences Po. Mais en même temps, il y a plusieurs milliers d'étudiants à Sciences Po. Et dans la rue Saint-Guillaume, il devait y en avoir 500 au moment de la plus grande affluence. Pourquoi ça se passe à Sciences Po ? Parce qu'au fond, ce qui choque, si ça se passait à la Sorbonne et à Nanterre, tout le monde dirait, bah, finalement, c'est la vieille tradition universitaire, un peu gauchiste, qu'on retrouve dans ces universités à tel ou tel moment de son histoire. Là, ça se passe à Sciences Po et ça choque tout le monde parce que Sciences Po, c'est l'école du pouvoir, c'est l'école de l'élite. Et comment... je suis passé par Sciences Po et c'était autrement plus modéré. Le jour où on accueillait Alain Juppé et Michel Rocard pour un débat, c'était le summum de la politisation à Sciences Po. Il y a eu un changement profond à Sciences Po et il y a un terreau favorable pour deux raisons. La première raison immédiate... C'est quand même la crise d'autorité, la crise de leadership qu'il y a à Sciences Po depuis 3-4 ans, depuis les crises successives qui ont touché la direction de Sciences Po et qui fait qu'il n'y a pas eu un directeur qui a pu s'installer durablement et faire respecter le règlement intérieur de Sciences Po, faire respecter l'éthique un peu de la discussion politique, parce que c'est bien qu'il y ait de la discussion politique, mais pas forcément sous cette forme-là. Donc il y a un affaiblissement de la direction Sciences Po. Actuellement, il n'y a qu'une direction provisoire, je le rappelle. Le directeur précédent a dû démissionner pour une affaire de violence conjugale. Et le précédent avait dû démissionner pour dissimulation d'une affaire de pédophilie. Et donc, il y a une crise à la direction de Sciences Po qui fait que les profs se sentent très seuls. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens. Et le terreau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'américanisation de Sciences Po qui fait que ce qu'on observe aux États-Unis, avec une part d'étudiants étrangers qui est assez importante, fait qu'on n'est plus du tout sur le même bain culturel.
Et est-ce que ça justifie le fait qu'il y ait des militants
pro-Gaza ? Rien ne justifie rien. Mais c'est révélateur que ça se passe à Sciences Po. Ceci, c'était inimaginable il y a 20 ans, 30 ans, voire plus loin. Alors que c'était tout à fait imaginable à la Sorbonne ou à Nanterre ou dans d'autres facs où c'est arrivé à de multiples reprises. Là, Sciences
c'est
Po,
la mutation de Sciences Po en tout cas, et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement en direct avec l'évacuation qui a commencé, vous le voyez, toujours en présence des députés de la France Insoumise. Et je vais vous faire réagir parce que c'est Éric Revel qui m'a alerté, vous avez bien fait, avec quasiment en live, en direct, dans le 7e arrondissement de Paris, devant le bâtiment de Sciences Po, le député Thomas Porte, qui a posté ce message-là. Mais regardez, on va le lire ensemble et on le découvre. Lorsque la police est arrivée sur place, voilà ce qu'a dit Thomas Porte, député de la République, les milices fascistes en service commandé pour le gouvernement génocidaire israélien.
Il parle de la police, là ?
Il parle de la police, oui, il parle de la police, parce qu'il est juste au-dessus d'un tweet où on voit les forces de l'ordre qui viennent d'intervenir, c'est écrit. Et lui, il écrit « les milices fascistes en service commandé pour le gouvernement génocidaire israélien ». Mais écoutez,
s'il ne parle pas de la police, de qui parle-t-il ?
Si.
Bah, non, mais écoutez, bien sûr, ça correspond.
Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Il y a une surenchère maintenant, mais absolument hallucinante, en termes de violence, en termes de termes choisis. Mais bon, j'espère que Gérald Darmanin va réagir. Que les forces de l'ordre soient traitées de milices fascistes, en service commandé pour le gouvernement génocidaire israélien. Mais pardon, c'est très grave. Il est député de Seine-Saint-Denis, il est député de la République, ce monsieur. Moi, je trouve ça absolument
fascinant.
J'ai l'impression que jour après jour, il y a une véritable escalade. Et puis juste pour répondre à Philippe, que je trouve un peu optimiste, c'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance à Sciences Po.
Oui.
Mais pardonnez-moi, celui qui vient de quitter Sciences Po pour des problèmes personnels, vous trouviez qu'il était extrêmement réactif par rapport à ce qui était en train de monter à Sciences Po ? Qu'on a vécu dans des... Non, parce qu'en réalité, et vous connaissez sans doute comme moi des profs de Sciences Po, ils sont tous aux abris. Ils ont peur.
Vous avez raison.
Ils ont peur pour leur job,
pas
physiquement. Ils ont peur pour leur job.
Vous avez raison.
Parce que s'ils ne sont pas dans cette idéologie-là, ils ont peur qu'on leur demande de démissionner.
Et ils sont pas
protégés.
Comme
ça s'est passé aux États-Unis.
Ils ne sont pas protégés par leur direction et par leur
administration. Voilà, les profs, on leur dit... Les élèves vont et demandent la démission du prof parce qu'idéologiquement, il n'est pas correct pour eux.
Que les profs, au passage, mutation de Sciences Po, là aussi, sur le mode américain, c'est que les profs, pour être recondés l'année suivante, doivent être notés par
évalués.
Leurs
étudiants.
Évalués par leurs étudiants.
Vous voyez comment le système se tient. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a peut-être un problème de gouvernance. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un turnover, comme on dit, très important à la tête de Sciences Po, mais la réalité, c'est quand vous êtes prof et que vous êtes évalué par les... Non, mais vous rendez compte, vous êtes évalué par les élèves. Si idéologiquement, ils vous trouvent à côté de la plaque, ben, ils mettent une petite croix et l'année suivante, vous n'êtes plus prof.
Ça incite les profs à l'autocensure et à la retenue pour ne
mais
pas
c'est
braquer
terrible.
On en est là.
Sciences Po, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, donc ce blocus pro-Gaza et pour certains anti-israéliens, Sciences Po, est-ce un symbole qui a été attaqué aujourd'hui ? Entre occupation et tension, on y revient avec Adrien Fontenot.
Allez-y là-bas, allez à Gaza ! Allez à Gaza !
À Sciences Po, la tension n'en finit plus de monter. Face à la mobilisation pro-palestinienne, ce vendredi, les partisans israéliens comptaient bien faire entendre leur voix.
Nous, on est là pour empêcher la confrontation. Ce qu'on veut, c'est du débat. Il nous empêche de débattre. C'est Sciences Po qui doit agir maintenant pour éviter ça. Ce que créent ces manifestants, c'est exactement cette violence.
Pour séparer les deux camps, les forces de l'ordre ont formé un cordon de sécurité sans disperser la mobilisation pro-palestinienne ralliée par la France insoumise. Un climat que dénonce ce professeur qui exerce en temps normal à Sciences Po.
Je suis quand même très triste de voir à quel point il faut que les forces de l'ordre se déplacent. Je pense qu'il ne faut pas confondre un lieu d'enseignement et un lieu de propagande. Voilà ce que je pense de la venue de Rima Hassan. On sent une tension qui est en train de monter. Et je pense qu'il est temps que cette tension, elle retombe. Il faut qu'elle retombe sur les campus, il faut qu'elle retombe à Sciences Po. Et je ne suis pas du tout certain, puisque j'ai vu tout à l'heure un leader de la CGT prendre la parole, je ne suis pas du tout certain que les étudiants qui sont là ne sont pas en train de se faire manipuler.
Le comité Palestine de Sciences Po, à l'origine de cette mobilisation, réclame de la direction une condamnation claire des agissements d'Israël.
Il a évidemment raison.
Et donc Philippe Guibert des étudiants, vous allez pouvoir réagir, des étudiants qui protestent donc contre les bombardements à Gaza, mais qui réclament aussi la rupture des partenariats entre Sciences Po et les universités israéliennes.
Ce qui est tout à fait scandaleux, c'est une logique de boycott d'Israël. On peut être opposé au gouvernement israélien et le critiquer.
Ému par ce qui se passe à Gaza aussi.
Oui, voilà. Et, bien sûr, on est ému par ce qui se passe, plus qu'ému par ce qui se passe à Gaza. Mais rentrer dans une logique de boycott d'institutions israéliennes, d'institutions culturelles, d'institutions du savoir, est là aussi une logique qui est plus une critique de la politique israélienne. C'est une délégitimation d'Israël lui-même. C'est-à-dire que de ne pas vouloir faire des échanges avec des universités israéliennes, c'est vouloir, en quelque sorte, répudier Israël. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. C'est pour ça, je reviens encore une fois, les défenseurs de la cause palestinienne, dans les années 70 et 80, dans l'extrême-gauche, n'étaient pas toujours anti-sionistes. Ils se battaient aussi pour un État palestinien à côté de l'État d'Israël, ce qui n'a pas abouti, hélas, comme on peut le regretter. Mais là, on a une idéologie qui remet en cause la légitimité même d'Israël, puisque Israël, pour eux, à leurs yeux, est illégitime du fait qu'Israël s'est installé sur une terre pour coloniser l'ensemble de la Palestine. Voilà, donc ils remettent en cause le principe même d'un État d'Israël, et c'est là où il y a une radicalisation qui est dangereuse et qui est dangereuse pour le conflit lui-même, mais qui est dangereuse pour la France, parce que ça conduit à importer des tensions identitaires, et on l'a vu à travers la montée des actes antisémites quand même, qui a été hélas et tragiquement spectaculaire en France depuis plus de 6 mois, à importer un climat en France qui est tout à fait détestable, alors qu'on devrait... Il y a quand même une époque où juifs et arabes, pardon de le dire comme ça, et d'autres qui n'étaient ni juifs ni arabes, pouvaient aller à une manifestation pro-palestinienne ensemble. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, c'est
extrêmement compartimenté, regrettable.
Politisé
extrêmement regrettable à tout point de vue.
Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs, Éric Revel, de notre société aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister, qui est en train de monter et... La démonstration a été faite notamment aujourd'hui. Il y aura sans doute d'autres manifestations de ce type-là. Mais qu'est-ce que cela dit ? Est-ce qu'on pourrait assister éventuellement à un début de soulèvement d'une certaine partie de la population qui pourrait rappeler mai 68 ? Qui pourrait être un mai 68 du 21e siècle ?
Je ne sais pas, mais là, vous voyez, mai 68, c'était une société qui avait besoin d'oxygène... Le pouvoir du général de Gaulle qui finissait, une France qui avait besoin de se moderniser. Après, bon, on a beaucoup, sans doute, beaucoup regretté mai 68, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'était un sujet français avec une révolte, d'ailleurs, qui n'était pas estudiantine au début, qui n'était pas du tout une révolte d'ouvriers.
Mais qui est devenu.
Ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un sujet français. Là, on est sur un sujet qui est tellement horrible, terrifiant, ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, que ça va, à mon sens, plus loin qu'une simple révolte, si vous voulez. Je pense qu'il y a les ferments d'une haine profonde qui va diviser les Français.
Donc on peut arriver à un effet mai 68, voire pire.
Mais je ne sais pas, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Mais je voudrais être complet sur le tweet de Thomas Porte, contre lequel je m'indignais, puisque je vois qu'un ancien du RAID, Bruno Pomard, dit « mais vous traitez les policiers de milices ». Et vous avez un autre député de la France Insoumise qui réagit là et qui dit « mais non, en gros, on ne parlait pas des policiers, on parlait de gens cagoulés ». Mais vous voyez... Enfin, c'est absolument tout et n'importe quoi. Quand vous réagissez sur un tweet où on voit des policiers faire face à des manifestants et vous mettez un tweet en disant « ce sont des milices fascistes », mais pardon, mais on... Vous voyez, on joue, à mon sens, sur l'abject. On joue sur l'ambiguïté.
Les gens cagoulés, qui sont-ils ? Et sont-ils des gens d'extrême droite, comme semble le dire Thomas Porte ? Les gens cagoulés,
enfin, voyez, non, mais c'est tellement dangereux de faire des déclarations comme ça à l'emporte-pièce.
Qui était effectivement dans la rue. Avant d'accueillir Arnaud Carlsfeld, vous pouvez réagir, Philippe Guibert, sur cette thématique-là.
Non, mais c'est totalement irresponsable. Parce que ce que fait Thomas Porte, il n'y a aucune... Enfin, on sort du domaine commun de la politique. Là, on a affaire à des députés qui jouent les divisions de la nation.
Et qui jouent avec le feu.
Donc, et qui sont comme s'ils souhaitaient la violence. Et donc, oui, tout ça est très dangereux parce que ça joue sur les tensions identitaires dans la société française. Là où je voulais réagir, c'est que la comparaison avec mai 68 ne me paraît pas la bonne parce que il y a quelque chose d'étudiant, évidemment, au départ, mais après, il y a 13 millions de grévistes. Et s'il y a mai 68, c'est parce que...
Oui, mais si ça fait les émeutes qu'il y a eu avant l'été dernier,
oui,
avec
mais alors,
des jeunes
vous croyez...
qui rejoignent les ouais, alors, étudiants, bonne question, notamment Lionel, de
bonne
de
question.
Gauche.
Vous pensez que dans la rue Saint-Guillaume, il y avait beaucoup d'habitants des banlieues?
Moi, je non, crois pas. Mais peut-être que
moi,
cela peut
pas.
S'étendre dans un débat... communautaire aussi également.
Il y a beaucoup de gens qui le
France qui sont divisés, qui pourraient rejoindre ce mouvement-là.
Il y a des gens qui l'annoncent, il y a des gens parfois dont on se demande s'ils le souhaitent pas. Moi, je constate que ça n'arrive pas.
D'accord.
Et je constate que dans les émeutes de juillet dernier, il n'y avait aucune revendication de nature
bien
politique,
sûr. Mais
ni même religieuse.
Il faut trouver des prétextes, peut-être
alors,
aussi,
après,
pour pouvoir exprimer
jamais...
une forme de colère.
Après, en termes de mouvements sociaux et d'émeutes, il faut faire très attention. Bien je sûr. Constate simplement que depuis 6 mois, alors que les tensions identitaires ont augmenté, alors qu'il y a une montée des actes antisémites, il n'y a pas eu d'émeutes de banlieue sur ce sujet-là.
Arnaud Klarsfeld est en direct avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait vous entendre et avoir votre regard sur ce qui s'est produit aujourd'hui. Nous sommes à la fin donc de cette journée et l'évacuation a commencé à Sciences Po. Elle est même sur le point de se terminer, toujours en présence des forces de l'ordre. Quelle est votre position, en tout cas votre sentiment sur ce qui s'est produit aujourd'hui, avec notamment des députés de la France Insoumise qui portent leur écharpe tricolore et qui se sont opposés, par solidarité avec ces étudiants, qui sont opposés à l'intervention de la police?
Je crois que c'est une minorité mugissante qui ne représente pas la jeunesse française, qui s'identifie soit de bonne foi pour certains, soit surtout par haine d'Israël à la cause palestinienne, et même plus, pas simplement à la cause palestinienne, ils s'identifient au Hamas, ils n'ont pas de compassion pour Israël, qui est toujours le David, et alors que les États arabes sont le Goliath. Donc, je ne suis pas inquiet, ils ne sont pas prêts à se battre, ils ne se sont pas battus contre les forces de l'ordre, donc ce n'est pas une révolte, c'est un mouvement de haine contre Israël, et même pas un mouvement d'identification à la cause palestinienne.
Ce que vous dites, Arnaud Klarsfeld, c'est que c'est un mouvement minoritaire, un mouvement minoritaire, et que donc c'est un mouvement qui ne peut pas se développer, qui ne peut pas se répandre beaucoup plus qu'aujourd'hui.
C'est mon analyse, mais je me trompe souvent, vous savez, donc ce n'est pas une parole d'évangile ou d'Ancien Testament, c'est mon analyse. En tous les cas, je vois qu'ils ne sont pas prêts à se battre, je l'ai dit, je crois que la réalité l'a montré, et je ne crois pas que la jeunesse française s'identifie avec le Hamas. Ils sont aussi instrumentalisés par la France insoumise, qui ne fait campagne que sur ce thème, et s'ils ne font campagne que sur ce thème alors qu'il se produit des dizaines de tragédies de par le monde, c'est pas par amour des Palestiniens, c'est par haine d'Israël. Quant au conflit avec Gaza, quand on étudie le ratio entre pertes humaines, pertes civiles et pertes militaires, il y a 30 000 morts, il y a 15 000 civils, 15 000 terroristes du Hamas. Dans un environnement urbain, je crois qu'Israël fait du mieux pour limiter les pertes civiles. Et si on étudie les pertes civiles dans des conflits comme avec l'Irak, avec l'Afghanistan ou avec Mossoul où ont participé les Français, Israël n'a pas à rougir. Le Hamas représente un danger existentiel à ses frontières. Les terroristes du Hamas sont rentrés comme dans les pires films d'horreur et ont massacré femmes, enfants, vieillards, nouveau-nés. Israël doit se débarrasser du Hamas, il n'a pas le choix. En plus, Israël a à faire face à un conflit avec le Hezbollah, un conflit avec l'Iran, un conflit avec les Houthis. Donc Israël est dans une situation qui est une situation périlleuse et doit agir pour maintenir la sécurité de ses concitoyens, ce qui est le premier devoir d'un État.
Mais l'importation du conflit, Arnaud Klarsfeld, pour vous, est finalement assez mineure par rapport à ce qui peut se passer, évidemment, au Proche-Orient, même si cette importation vient effectivement d'Israël et de Gaza, mais vient aussi des États-Unis, car il y a de nombreuses universités qui mènent le même combat pro-Gaza, voire anti-israélien.
Je crois pour ma part qu'aux États-Unis, le danger wokiste et le danger de certaines minorités qui veulent s'identifier à des causes qui sont des causes hostiles à l'Occident représentent un danger et contre lequel il faut se battre. Mais Biden est dans une situation difficile parce qu'une partie de son électorat adhère à cette cause wokiste et c'est un danger pour les Occidentaux, oui. C'est pour ça qu'en fait, je ne suis pas un partisan de Trump. Il manque de tact, il est vaniteux, mais il y a une partie de ses troupes qui sont réactionnaires, mais je trouve que les réactionnaires sont moins dangereux que les wokistes, parce que les réactionnaires sont les sujets sociaux, même s'il y a des réactionnaires, les sujets sociaux comme l'avortement et tout ça, c'est rentré dans les mœurs, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Mais les wokistes peuvent causer beaucoup de dommages à l'Occident.
Merci Arnaud Klatsfeld, merci d'être intervenu sur l'antenne de CNews pour participer à ce débat. Philippe Guibert, à la lumière de ce qui a été dit et de tout ce qu'on a dit d'ailleurs depuis le début de l'émission, est-ce que vous avez vraiment l'impression que cette importation-là ou ce qui s'est produit aujourd'hui ne va pas se reproduire ou que si ça se reproduit, cela restera dans son coin et que ça n'aura pas d'impact véritablement à la fois sur notre société et puis sur ce qui peut se passer également au Proche-Orient?
En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas d'impact politique. Je le répète.
Malgré les déclarations et la présence des députés de la France Insoumise.
Je constate pour l'instant que contrairement à ce que je pensais, les interdictions de réunion, les convocations au commissariat de police dont je craignais qu'elles bénéficient à LFI par victimisation, ça ne c'est pas ce qu'on constate dans les sondages. On verra au moment des élections. Peut-être que les sondages se trompe. Et d'autre part, je constate une deuxième chose, c'est que les manifs pro-palestiniennes, appelons-la comme ça, sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus violentes, que ce soit à Londres ou à Berlin, qu'en France. Je ne dis pas qu'elles sont négligeables en France, mais l'agitation de LFI qui appelle à un soulèvement, comme tu le disais, Eric, tout à l'heure.
Ah, comme Mme Rima Hassan.
Mme Rima Hassan le proposait.
Si j'ai bien compris ce qu'elle a écrit.
Ça amène 500 personnes rue Saint-Guillaume. Bon, c'est un. D'accord, ils ont bloqué Sciences Po deux jours. C'est un symbole, ils ont touché un symbole parce que dans l'esprit des Français, Sciences Po, ça reste l'école de l'élite et l'école de la formation du pouvoir, même si Sciences Po a beaucoup bougé. Mais je ne trouve pas que ça soit... C'est spectaculaire. Je ne suis pas sûr que ça soit des manifestations de masse. Et en tout cas, rien de comparable à ce qu'on observe dans d'autres pays européens.
Éric Revel, est-ce que la cause palestinienne, ceux qui l'incarnent aujourd'hui en France, et notamment qui étaient présents à Sciences Po, et la France Insoumise également, ont réussi un coup de com' aujourd'hui? Parce que finalement, il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas eu de bagarre, et fort heureusement, bien sûr, l'intervention de la police. Mais on a passé des heures tout de même, et toutes les chaînes l'ont fait, sur cet événement... On en a parlé.
Oui, alors, vous voulez dire, est-ce que ça va se traduire?
Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce qu'ils ont réussi leur coup? Est-ce que c'est ce qu'ils recherchaient véritablement?
Écoutez,
est-ce qu'ils
ont réussi leur coup? Ce qu'ils réussissent surtout, c'est à fragmenter, c'est à fracturer un peu plus, pardonnez-moi. C'est ça le sujet. On peut, vous voyez, il y avait un étudiant tout à l'heure, je crois, qui était juif, qui disait, nous, on est là pour débattre. Mais on peut débattre de ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas de doute. On peut débattre d'un deuxième État qui me semble inévitable pour la Palestine à côté d'Israël. On peut débattre de tout ça tranquillement. Mais là, visiblement, c'est plus le sujet du tout des gens qui sont dans la rue, là.
Non, c'est pas l'État palestinien qu'ils demandent.
Ils ne demandent pas l'État palestinien. Ils demandent la suppression d'Israël, en fait. Bon. Donc, si vous voulez, à partir de là, c'est absolument inacceptable. Donc, dans un lieu, de réflexion, d'élite intellectuelle comme l'est, j'espère encore, Sciences Po, refuser le débat, refuser l'expression, mais c'est nier, pardonnez-moi, tout ce qui a fait que la France a suivi depuis des années une voie démocratique intéressante, où il y a toujours eu du débat. Là, j'ai l'impression que plus les choses avancent, moins le débat est possible, et plus la confrontation, pas des points de vue, la confrontation tout court devient... Presque obligatoire. C'est ça qui m'inquiète le plus.
Sur ce sujet, il n'y a pas qu'à Sciences Po qu'on a du mal à organiser le débat.
Non, mais...
Oui. De toute façon, là, on est dans un happening LFiste. On a tous compris quand même que là, c'était une petite manip de LFI investissant un lieu de...
C'est pour ça que je parlais de communication de tout à l'heure. Oui,
bien. C'est un coup de communication. Ne demandons pas à ces braves gens d'en plus débattre. Mais c'est difficile de débattre sur... sur ce qui s'est passé, parce que objectivement c'est très compliqué. On pourrait se demander jusqu'où doit aller l'intervention israélienne si elle ne doit pas s'aérer. Tout ça, c'est très compliqué.
Bien sûr, on pourrait parler de la Cisjordanie, on pourrait parler de tas de choses. Et on pourrait parler de la politique de Netanyahou.
Absolument.
C'est pas parce qu'on se bat pour l'existence d'Israël qu'on est pour la politique de Netanyahou.
On pourrait aussi interdire ces manifestations. Elles l'ont été d'ailleurs, mais à chaque fois, les manifestants se sont rendus sur place et le préfet a été obligé de jongler avec j'autorise, j'autorise pas. Ça aurait pu être le cas ici, aujourd'hui également. Merci infiniment d'avoir participé à cette dispute, Éric Rebelle et Philippe Guibert. À vendredi prochain, évidemment, pour une nouvelle émission. Demain à 14h, 180 minutes info week-end, mais vous ne bougez pas, la suite et la fin de la soirée, notamment à Sciences Po avec Olivier de Kerenfleck dans quelques instants sur CNews, c'est Soir Info.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.